Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction.
A long time ago, in a galaxy far, far away,
there has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
What a strong one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored if you would join us.
May the Force be with us.
Alors, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette 10e émission enregistrée le 31 janvier 2018. C'est la 10e émission du spin-off sur les émissions collector. Et aujourd'hui, nous allons parler des émissions qui parlent des jouets collector, c'est-à-dire les émissions, tout simplement consacrées aux jouets, aux collections Star Wars. Donc, c'est un petit peu différent d'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis présent avec mon collègue Raphaël. On va être tous les deux d'habitude, moi je suis plutôt sur l'alité, mais pour une fois voilà, j'avais eu un gros coup de cœur sur cette émission et donc du coup j'avais demandé à l'équipe collector si je pouvais participer. Alors malheureusement on n'a pas Sébastien Galano qui pourtant aurait pu nous apporter pas mal d'éléments, mais donc du coup bah voilà, je vais être là à sa place, je vais essayer d'être à la hauteur, même si c'est pas forcément gagné parce que j'ai pas le
niveau, c'est impossible,
j'ai pas le niveau de connaissance requis sur les jouets, mais une petite sensibilité tout de même sur les jouets. Alors Raphaël, avant qu'on se lance, est-ce que tu veux nous faire un petit what's up? Tu sais, le moment où tu nous dis que t'as adoré Star Wars 8, tout ça, ou d'autres choses. Vas-y.
Là, il y a dû y avoir un problème dans le montage, et c'était, est-ce que t'as bien aimé Star Wars 8? Non, rien de nouveau en fait, hein. J'ai vu le film, j'ai attendu le film, et puis maintenant j'attends Han Solo, voilà, pour me faire une bonne vision de tout ce qui est. Pareil du côté prodeur, là je fais rien pour l'instant, j'attends un peu, parce qu'on est un peu petite overdose avec les épisodes 8 au niveau des jouets.
Ouais.
Donc là, j'attends la suite. Tout simplement. Là, je suis vraiment en mode attente. Attente de Han Solo.
Sachant que les jouets ont commencé, on commence à avoir des visuels un peu sur Han Solo. Mais c'est vraiment intriguant de ne toujours pas avoir de bande-annonce à 4 mois du film, quoi. Enfin,
Il y a Super Bowl ce week-end. On espère le voir pour le Super Bowl.
Ouais, bah voilà. Non, mais je pense que c'est ça qui va se passer. D'ailleurs, c'est la grande rumeur. Alors moi, concernant mon WhatsApp, et bah pareil, je suis toujours en attente, pareil, de la BA de Solo. Alors on peut imaginer que là, on va avoir des périodes bien fournies, et puis ensuite, entre Han Solo et l'épisode 9, une période plus ou moins de creux, hein. Mais que va-t-on acheter à Noël cette année 2018? Et que va-t-on aller voir au cinéma? Bon, peut-être Aquaman, mais bon, ça sera peut-être pas aussi hype. Me concernant mon petit WhatsApp jouet, alors un truc rigolo qui s'est passé, donc moi les jouets principalement je les achète pour mon petit garçon parce que voilà, c'est une manière de me faire plaisir, voilà, tout en assumant pas complètement le truc, donc c'est très bien. Et lui, je le vois vraiment s'éclater, il passe des heures et des heures à jouer. Ça me rappelle vraiment mon enfance, mon innocence et l'aspect créatif, si tu veux, que tu peux avoir quand t'es gamin à jouer, et la petite magie en fait que tu perds quand tu deviens adulte et que t'as des jouets et que tu les mets juste dans une étagère. Je trouve que tu peux jamais retrouver la sensibilité, l'émotion que t'as étant gamin quand t'as des jouets. Là dernièrement, juste pour info, bon, en dehors le Raktar, il a adoré le Raktar de Hasbro avec Balatic où il jouait à le faire bouffer un peu par tout le monde. D'ailleurs, il est très bien fait parce qu'on peut mettre les tentacules du Raktar font des espèces de, elles sont légèrement recourbées en fait, elles font des courbes, et dedans tu peux mettre les bonhommes au sein de la tentacule. Donc des fois je le vois jouer, il y a deux mecs qui sont pris dans les tentacules et un autre qui se fait bouffer. Donc je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Je te cache pas que les tentacules on les a déjà recollés à la super glue un sacré paquet de fois, mais ce coup là c'est bon, là ça tient avec la gomme de super glue. Et là dernièrement il a reçu, en fait c'était son anniversaire, il a reçu le Slave One de Boba Fett, hein, en Hasbro, et c'était assez sympa. Alors c'est le modèle le plus petit modèle, hein, le dernier qui avait été fait sur la collection Réveil de la Force. je sais pas si tu vois lequel c'est. Et c'est un vaisseau que j'arrivais pas à trouver. Et alors c'est là où ça, j'ai été un petit peu touché justement par l'aspect communauté. On a un auditeur de Star Wars en direct avec lequel je suis devenu ami comme certains autres auditeurs. Et il avait eu une photo où il montrait qu'il avait acheté dans un des stocks en fait un Slave One. Et il me dit, j'ai payé 12 euros. Et je lui dis, oh, trop de la chance, etc. Donc, c'est Rémi Gaudry-Bourgeois. On le voit assez souvent posté sur notre page Facebook, réseaux sociaux et compagnie. Et j'étais au culot. Je lui dis, ah, tu m'en trouverais pas. Il me dit, bah, pas de problème. Et il est retourné me l'acheter. Il me l'a envoyé par la poste. Donc, bien évidemment, je l'ai remboursé. Mais c'était vraiment sympa parce que autant des fois, on voit notre communauté, des gens des fois s'engueuler. Et on se dit, bah, à quoi ça sert la communauté Star Wars finalement. Et je trouve que ça donne une assez mauvaise image. Et ben là, j'ai trouvé que c'était une belle manière justement de montrer l'aspect l'aspect entraide, famille, et, on s'aide un petit peu les uns les autres et il était ravi de savoir que mon petit a eu ce jouet et était content. Et d'ailleurs ça a été tout le week-end, il a pas arrêté, même le soir il demandait à dormir avec le Slave One, on a regardé un peu la télé, il a pris le Slave One au cas où il avait peur, enfin vraiment tu sens vraiment l'affect qu'il peut y avoir par rapport à ses jouets. Et je trouve qu'en termes d'introduction à notre émission, c'était un WhatsApp assez sympa.
Et au niveau de thérapie, le psy, il en pense quoi de votre famille ?
Oh bah on est sous cacheton hein, depuis très longtemps là.
Ah, d'accord.
Bah d'ailleurs tu l'as vu, t'as dû voir ma famille à QC, t'as dû voir le bordel que c'était la fois où je les ai ramenés. Donc tu vois, oui. le psy, heureusement que je l'ai pas amené à QC, parce qu'alors là je sais pas, peut-être que...
Non mais des fois il faut savoir dire non.
Hein. Exactement, il aurait retiré mes enfants, tout ça quoi. Donc voilà. Bon bah voilà, ça c'était pour notre WhatsApp. Tu veux rajouter quelque chose, Raphaël ?
Non, je crois que... T'avais eu plus de sensations que moi, donc je te laisse bien noter les sensations de jouer, parce que malheureusement, pour moi, c'était le plat pays.
Ouais. Bon, bah écoute, on va se lancer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sinon ? Bah, les dernières émissions, on a eu une émission littérature, que j'ai d'ailleurs écoutée hier après-midi, où nos amis québécois, en fait, nous parlent de deux bouquins qui sont sortis. On a Point of View, là, Certain of Point of View, où on reprend, en fait, plein de petites anecdotes, en fait, sur l'épisode 4, à travers des points de vue subjectifs de différents personnages. Et puis on a eu Legend of le Luke Skywalker, qui était un bouquin écrit avant le Journey to the Last Jedi, avant la sortie du film, qui était censé nous raconter des histoires de Luke Skywalker, mais qui n'était pas canon en fait. Donc bon, moi je trouvais que ça avait au moins le mérite d'être original. Après la critique qu'en ont fait nos collègues, visiblement c'est très dispensable, donc on verra, ce sera peut-être même pas traduit en France. Et puis on regrette aussi le fait qu'Ahsoka Tano, le bouquin qui apparemment lui était pas mal, et était repoussé à une date ultérieure, on sait pas laquelle. Donc voilà, et puis tout d'abord, on va avant de se lancer, on va remercier nos partenaires, à savoir siteclan.net, mintinbox.net, starwarsolonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, makingstarwarsfrance.net et Génération Star Wars et Science Fiction.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et donc nous allons nous lancer sur notre thème des émissions sur les produits collecteurs de Star Wars. Et l'émission vraiment qui nous a poussé à travailler sur ce thème, c'est l'émission The Toys That Made Us. Donc excusez l'accent anglais, hein. Donc on pourrait le traduire en français par les jouets qui nous ont façonnés, les jouets qui nous ont fait. Et je trouve que le titre est tellement bien trouvé. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui se passe dans cette émission où on nous dévoile en quoi ces jouets-là, dans la manière dont ils ont été créés, ont pu avoir une influence sur nous et comment ils ont eu une influence sur nous. Donc on va déjà parler... Alors cette émission, elle est en 8 épisodes, hein, 2x4. On a la première qui est sur Star Wars, une deuxième sur Barbie, une troisième sur les maîtres de l'univers, He-Man.
Musclor.
Une quatrième sur les G.I. Joe.
G.I. Joe.
Ouais. Et la deuxième partie de la saison, on aura les Transformers, les Lego, Hello Kitty et le huitième, je sais plus ce que c'est. Donc voilà, ouais. Donc des thèmes assez intéressants et la manière dont c'est traité, c'est vraiment intéressant. Donc par contre, on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur Star Wars, hein, sur l'émission sur Star Wars, et on va tout d'abord parler de l'aspect, on va dire mercantile, c'est-à-dire à savoir comment on en est arrivé à ça. Donc on va commencer déjà par la première partie, qui est la partie Kenner, on va dire la partie collector, et on va rapidement voir la manière dont ça a été présenter. Est-ce que toi, qui es un grand spécialiste de l'univers vintage, est-ce que tu veux commencer par nous reparler un petit peu de cette histoire, de la manière dont c'est évoqué dans, le, dans ce documentaire? Je t'écoute, Raphaël.
Ouais, ce qui est bien dans ce documentaire, l'approche est assez intéressante, parce qu'en fait, on ne parle pas du jeu en tant que tel, on parle de l'aspect marketing des choses, et l'aspect financier des choses. C'est-à-dire que ce n'était pas est-ce que telle ou telle figurine était intéressante ou pas. Là, on parle vraiment de philosophie. Ça veut dire qu'il faut voir au départ, quand on regarde ce documentaire, ce qui est surprenant, c'est qu'au départ, personne n'en voulait, quoi, des jouets Star Wars. Ça, c'est un peu surprenant. Et après, nous, quand on parle Kenner, pour moi, Kenner, je pensais que c'était une grosse boîte à l'image de Hasbro et tout. Et dans le documentaire, on apprend que Kenner, ce n'est plus une petite boîte qui est basée à Cincinnati, qui fait des jouets, voilà, et qui a répondu favorablement à une demande de fabriquer des jouets, parce qu'elles étaient aussi en perte de vitesse, on va dire, donc elles cherchaient un moyen de rebondir. Et cette petite boîte a dit, bon, écoutez, ils ont signé un contrat avec... Et George Lucas. Alors, ce qui m'a surpris aussi, c'est que moi, je pensais que George Lucas avait vraiment, à l'époque, fait des documents spécifiques, comme quoi il voulait pas ça, pas ci, pas ça, des choses vachement plus contraignantes. Et en fait, on découvre qu'il n'y a rien de tout ça, quoi. Que le contrat a été fait sur papier vierge, vous faites ce que vous avez à faire, et puis voilà.
Et dans le contrat, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'aussi, George Lucas, il avait négocié un pourcentage des ventes, comme quoi il y croyait plutôt qu'un montant fixe. Ce qui se passe d'ailleurs aussi avec Barbie, où le gars, l'alcoolique notoire hein, qui avait inventé les Barbie, il avait réussi à bien négocier son contrat. J.I. Joe, c'est pareil. Alors J.I. Joe, c'est l'inverse. Lui, il avait décidé de prendre un montant fixe pour la création. Et en fait, il s'est rendu compte, il avait encaissé 100 000 dollars. À l'époque, il était trop content. Mais après, quand il a vu le potentiel du truc, il s'est dit, putain, j'étais trop con. J'aurais vraiment dû faire comme les autres, à savoir demander un pourcentage. Parce que finalement, il y a un coup de poker. C'est est-ce que tu crois en ton truc ou pas? Et George Lucas, il avait vraiment, il était visionnaire là-dessus. Il s'était dit, voilà, il y a vraiment un vrai marché à prendre sur les jouets. D'autant plus que dans les figurines d'action, on se rend compte qu'à cette époque-là, les figurines d'action, c'était les gros G.I. Joe, et qu'il n'y avait pas de figurines 10 cm, ça n'existait pas. Et je trouve qu'ils ont eu c'est eux qui ont inventé le concept des action figures, finalement, plus ou moins, quoi.
Oui, exactement. Mais moi, ce qui me surprend vraiment dans l'approche du jouet, c'est que on a l'impression, dans le documentaire, que George Lucas s'y croyait à son film et sans plus, d'accord, que les jouets, il y croyait sans plus, voilà, et qu'en fait, il a été lui aussi surpris par le phénomène de, comment dire, d'attirance pour le film, avec le monde qui allait voir ce film-là, et puis derrière, il pensait pas que les jouets allaient suivre le même chemin, quoi. Et ce qui est bien dans ce reportage-là, c'est qu'on voit toute la problématique de la fabrication des jouets, la distribution des jouets, tous ces jeux-là, et un moyen très abordé. Alors, ce qui est bien dans ce reportage, d'accord. Alors, bien sûr, ce reportage, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est sur la chaîne Netflix. On a oublié de le préciser au départ. Mais avec un mois gratuit, vous pouvez l'avoir et puis arrêter votre abonnement si vous le souhaitez. Ce qui est bien, c'est l'approche. L'approche d'une personne qui sculpte des jouets, d'accord. Et comment on fait pour minimiser les coûts. Et là aussi, c'est intéressant. C'est qu'on voit que c'est du racolage d'une pièce avec une autre pièce. Ouais. Et ça, c'est aussi intéressant dans le sens où on peut comprendre pourquoi il y a eu autant d'erreurs dans les jouets. Parce que quand on voit la façon dont ils étaient fabriqués, on peut comprendre qu'il y a autant de têtes blanches, des têtes jaunes, des têtes oranges, des grands sourires, des petits sourires, des grandes moustaches, des petites moustaches. Donc, je veux dire, c'est là on comprend.
Et voilà. Du coup, ça touche peut-être plus des mecs comme toi qui sont collectionneurs de ces vintage, parce que ça t'explique pourquoi t'as autant de versions bizarres à collectionner. Que moi qui suis pas collectionneur, ça par exemple, tu vois, j'y étais moins sensible.
Ouais. Non, mais ce qui est bien dans cette approche-là, c'est que c'est accessible. Le documentaire est vraiment accessible. C'est pas comme si quelqu'un te parlait d'une carte vintage, du back ou une chose comme ça, ou la version. Non, là, c'est vraiment le marché tel qu'il était lancé sur les jouets, donc Kenner au départ. Il y a aussi, on parle de l'intervention des autres marques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on cite aussi que Kenner, c'était pour les États-Unis et qu'il y avait d'autres marques dans d'autres États, comme Mécano, comme Harbor, en France et toutes ces choses-là. Donc, on voit bien le pourquoi du comment. Les figurines existaient sous ces autres marques à l'époque, jusqu'après que il y a eu un petit flottement dans les jouets et bon, Kenner s'est fait racheter ou a revendu ses parts à Hasbro, qui a fait ce qui est devenu. Mais ce qui est surprenant, vraiment, c'est de voir qu'au début, personne n'y croit, quoi.
Et puis que, ouais. Et puis que vraiment, en fait, c'est un peu le vilain petit canard, la licence Star Wars, et que finalement, même Hasbro l'avait refusé, cette marque, et qu'après, bien longtemps plus tard, au moment où il faut racheter Kenner, ils ont allongé le pognon, quoi, finalement.
Oui, bah, c'était légitime aussi, hein. Le marché était existant, était assez florissant, donc il fallait faire le nécessaire. Mais moi, j'ai bien aimé dans l'approche du reportage, l'aspect marketing. Avec le fait que d'un seul coup, tout le monde voulait se jouer là et personne n'en avait. C'est-à-dire que l'offre était supérieure. Non, la demande était supérieure à l'offre. Et c'est là qu'ils ont inventé le fameux découper les coupons pour recevoir ultérieurement les jouets et compagnie, le temps qu'on les fabrique en fait. Et c'était l'astuce qu'ils avaient mis en place pour combler en fait la carence de produits à céder par rapport à l'offre qui était, on va dire, pas tellement peu importante et une demande vraiment une demande incroyable quoi. Et c'est là. Ils ont pu rebondir.
Ouais, pour ceux qui connaîtraient pas ce dont Raphaël parle, en fait, en marketing, d'ailleurs, c'est un exemple que moi j'utilise souvent dans mes cours. L'exemple du premier pack en fait de figurines où ils avaient pas en fait pour expliquer aux auditeurs qui connaîtraient pas cet exemple-là, les premières figurines, ils n'avaient pas pu en produire assez et comme la demande était importante, on vendait aux gens un pack en carton où on avait des espèces de figurines, des figurines en carton qu'on découpait et qu'on posait en fait pour jouer avec juste les cartons en vous promettant de recevoir après les figurines. Bon, c'était d'ailleurs le cas, mais on peut imaginer que le gamin, en fait, à l'époque, sous son sapin, la hype était tellement forte qu'il préférait avoir les figurines en carton de Star Wars en lui disant elles vont arriver plus tard plutôt que d'avoir des jouets d'une autre licence. Mais qui ne correspondent, qui sont réels, mais qui étaient moins, qui correspondaient moins à leur attente. Et là, on peut imaginer que du coup l'effet un peu manque en fait est rare, qui fait que du coup c'est un peu la course aux jouets quoi pour Noël qui existe toujours avec d'autres thèmes aujourd'hui. Mais c'est vachement intéressant et c'est aussi un peu la capacité à donner de la matérialité à l'offre. Un peu tu vois le développement aujourd'hui des smartbox et compagnie, c'était un peu ça, c'était les prémices finalement. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir, et on imagine le gamin finalement. Moi, je dis souvent à mes élèves, je dis, un des meilleurs moments dans l'acte d'achat, c'est l'avant-achat. C'est-à-dire, c'est le moment où tu rêves le produit, où tu le fantasmes, etc., où tu te transposes, en fait. Et ce moment-là, on peut imaginer que le gamin, il reçoit en fait le paquet et que il s'imagine les figurines et que finalement tout ce moment d'attente, il est presque plus puissant que le moment où il va jouer avec finalement, parce que ça crée le produit, enfin ça lui donne encore plus de hype en fait finalement.
Bah oui, c'est le fantasme, hein. Ça apporte, on va parler de notion de fantasme, hein. Je dis toujours qu'une fille avec une demoiselle, quelle qu'elle soit habillée ou bien habillée, apporte plus de fantasmes une fois que tu peux l'avoir nue ou pas nue. Alors, faut que j'arrête de dire ça, parce que ce qui se passe avec déclaretonport.com, je vais me retrouver en prison. Non, mais le jouet, c'est ça, en fait. C'est qu'on a réussi à susciter un besoin sur quelque chose qui n'avait aucun besoin. Attends, qu'est-ce qu'elle est suscitée de dire, je vais attendre 10 jours ou un mois pour avoir un jouet. À l'époque, c'est quand même 77, pourquoi j'attendrai pour avoir un jouet? Donc on voit bien quand même qu'il y a une philosophie qui est apportée, et cette philosophie est quand même importante. Moi j'avais cru au départ que cette philosophie était une philosophie de Lucas. Voilà. Et là on découvre que c'est une philosophie en fait de ni plus ni moins de Kenner. C'est Kenner qui a trouvé ce stratagème, d'accord, pour pallier à la carence. À la carence de jouer.
C'était génial. Voilà. Et rien que ce concept-là, bon, il est très bien expliqué d'ailleurs.
Oh oui.
Mais rien que ça, c'est quand même la base du marketing Star Wars. Moi, c'est vraiment le cas d'école que j'utilise tout le temps. Et c'est vrai que on ressent ce truc-là. On parlera plus tard du ressenti sur les gamins. Mais juste pour évoquer ça, moi, j'ai le souvenir de l'expérience d'avant la consommation. Je prends souvent l'exemple de Noël où quand j'étais gamin, je me rappelle au mois de novembre, on commençait à recevoir les catalogues et j'étais chez ma grand-mère. On
allait dernière, tu veux dire.
C'est ça. Et je passais des heures à regarder ces catalogues, parce que le moment où je recevais des figurines, c'était à Noël et à mon anniversaire. Et ce moment du mois de novembre où je regardais toutes les figurines, on allait faire les magasins, je repérais les figurines, et je me rappelle le soir, quand je collais mes trucs, mes figurines que je voulais pour Noël, le soir, je me couchais et je m'imaginais les scénarios que j'allais pouvoir monter. Et finalement, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'était pas le moment où je les jouais, c'était tout cet amont, en fait. Et j'en garde vraiment d'excellents souvenirs, quoi. Donc, je trouve que c'est assez bien retranscrit dans cette émission. Et maintenant, on va passer au concret, finalement, au modèle de figurine. Donc, pareil, je te laisse avoir la main sur, parce qu'ils évoquent différentes figurines, les plus classiques. On a le Snuggletooth, le Boba Fett, etc.
Oui. En fait, dans le reportage, ils expliquent, bon, les figurines, comment ils ont fait les montages, à partir de quelles pièces ont constitué tel ou tel personnage, comment on pourrait, à partir d'un personnage, en prenant les bras de ce personnage-là, l'intégrer sur un autre personnage pour économiser ni plus ni moins de la fabrication. D'accord, ça c'était très bien expliqué. J'ai tout expliqué l'exemple du Boba Fett, le fameux Boba Fett avec le missile dans le dos, où ils expliquaient que quoi ils avaient conçu le produit à l'époque, d'accord. Donc ils avaient fait un prototype et en fait ils évoquaient le missile dans le dos. C'était une bonne idée en fait de faire quelque chose de qui pouvait partir, projeter un missile dans le dos. Donc ils avaient fait des prototypes, d'accord, à l'époque avec différents systèmes d'encoloche droite ou gauche pour voir si le missile pouvait partir ou ne pas partir. Et en même temps qu'ils réfléchissaient sur le concept, qui présentait le produit en phase finale, est arrivé que ce type de produit existait sous une autre marque, d'accord, et qu'un accident qui s'est passé, c'est qu'un petit garçon avait soi-disant, entre guillemets, alors c'est aussi, on n'ira jamais vérifier, hein, qui a eu un petit problème simplement d'ingurgiter ce petit missile, d'accord, sur une autre gamme de jouets. Et par sécurité, en fait, ils ont préféré arrêter la fabrication de ce jouet, c'est-à-dire qu'ils l'ont même pas fabriqué, entre guillemets, juste s'arrêter au domaine de prototype, d'avoir fait peut-être un tirage de quelques exemplaires, et de se rendre compte que la dangerosité du produit faisait qu'il fallait mieux abandonner l'idée, d'accord, de mettre quelque chose de mobile, donc le missile restait, on va dire, collé au dos, n'était plus éjectable. Et c'était impressionnant, parce qu'en fait, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est que ce personnage de Boba Fett était particulier, parce qu'on l'a découvert dans un événement spécial, qui s'appelle Holiday Special.
Téléfilm, en gros, de Noël aux États-Unis.
Et apparaissait Boba Fett. Voilà. Donc, il voulait faire le lien entre la présentation de ce personnage, d'accord, et la mise en vente de ce produit-là. Et en fait, personne n'a su, dans les premiers temps, qu'il existait un modèle avec le missile éjectable. Tout le monde a pensé pendant des années qu'il n'existait que le modèle classique.
Et donc, du coup, ce qui est aussi intéressant avec Boba Fett, et il l'explique, c'est la hype qu'il y a autour de ce personnage, parce que, soit dit en passant, alors je vais me faire tuer quand je parle les auditeurs, mais finalement, Boba Fett, si on le regarde dans les films, son rôle est assez mineur, et la manière dont il meurt, bon, on a appris récemment qu'il n'était pas forcément mort, mais il a une mort à la con, quoi. On se retourne, il prend un coup dans son missile et il finit dans le sarlac. C'est vraiment la mort con pour un personnage qui a pour autant toujours autant la hype. Et pourquoi
si je peux me permettre. Vas-y. Je peux me permettre, et après, ça, les gars volent bien dans l'espace. T'es permis. Hein.
Donc, du coup, je relève même pas, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Donc, ce fameux Boba Fett, pourquoi il a eu la hype? Parce que c'est un personnage qu'on a vu dans le Holiday Special et qui a intrigué les fans. Et les fans, c'était le futur nouveau personnage. En plus, on nous disait, ah voilà, c'est un des futurs personnages qu'on va voir dans le prochain film Star Wars. Faut bien se dire qu'à l'époque, il y avait que A New Hope. Donc, du coup. Vraiment, c'est comme si ce serait même plus comparable, parce qu'à l'époque ils avaient qu'un film et ils avaient un élément pour le futur film pour le futur Empire Contre-Attaque qui intriguerait tant de monde. Et déjà le personnage est super cool visuellement, il a une armure, il a un jetpack et tout, donc vraiment déjà il d'un point de vue design il a vraiment de la gueule. Mais en plus c'était voilà le premier personnage qu'on allait voir après, et donc du coup tout le monde avait envie d'avoir Boba Fett. Il s'est créé une hype en plus énorme autour de ce personnage, et le côté le missile qui partait, ils avaient fait des pubs là-dessus, ils avaient communiqué dessus en disant vous allez avoir le Boba Fett avec son missile qui tire dans le dos, et ça on avait vachement envie de le voir, quoi, et de l'avoir. Sauf que du coup quand les gars l'ont eu, bah il avait pas le missile qui tirait dans le dos, donc semi déception quand même. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont chez Steve Sansweet. Alors Steve Sansweet, ça a été, tu vas me corriger si je me trompe, longtemps le plus grand collectionneur de figurines Star Wars, et il a monté un espèce de pseudo musée, c'est ça, où il a une collection énorme. Donc la dernière fois tu me disais que quelqu'un avait qui a une plus grosse collection que lui, mais c'était assez intéressant, oui. Parce qu'ils vont chez Steve Sansweet et on voit le fameux Boba Fett. D'ailleurs chez Steve Sansweet, on voit une collection incroyable.
Moi je l'ai eu dans les mains en fait, hein. Lors d'une convention, c'était celle de quel d'après moi, ça doit être dans une convention, c'était au JediCon. Au JediCon, une personne l'a vendait. Donc je l'ai trouvé mal, 56 000 dollars.
Ah oui. Ah bah, c'est une babiole.
C'est pas une blague, hein, le prix.
Ouais, c'est.
Ça calme, hein.
Ouais, donc du coup, fallait que tu vendes ta maison pour l'acheter, du coup, t'as dit non, je garde la maison.
Non, ça va.
Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, juste en aparté, la collection de Steve Sansweet, elle fait vachement envie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Steve Sansweet nous dit que lui, il adore quand il est dans son musée aller prendre les jouets, les prendre dans ses mains, les jouer, jouer plus ou moins avec, et que d'ailleurs certains collectionneurs disent mais c'est inadmissible, il joue avec les jouets. Et alors je sais pas si c'est une réalité, mais visiblement dans le monde des collectionneurs, certains n'apprécieraient pas qu'on joue avec les jouets. Il faut les laisser en blister, faut pas les toucher, mettre en vitrine. Et lui dit bah non, les jouets faut qu'ils vivent, donc j'aime bien aller dedans, les utiliser, les toucher. Etc. Quoi.
Ouais, mais Steve Sansweet, l'avantage qu'il a, c'est qu'il met à disposition, dans le cadre d'une visite, c'est-à-dire qu'en passant, on peut visiter son showroom, si on peut dire comme ça, son exposition, où les produits sont disponibles. Il en parle avec vraiment passion. L'avantage qu'il y a, c'est que les jouets, on peut les toucher, les manipuler. Je ne dis pas qu'on peut les écraser, bon, moi, tu les vois pour de vrai, c'est toujours mieux que de les voir derrière une plaque d'acrylique où tu peux ni les toucher, ni les sentir. Je veux dire, l'aspect kinesthésique est absent, c'est que l'aspect visuel qui fonctionne. Donc là, avec Steve Sansweet, l'avantage, c'est que tu as toutes ces possibilités, voilà, de pouvoir les voir, les utiliser. Mais c'est impressionnant, je crois qu'il avait 56 000 produits, je crois, je ne sais plus dans le livre des records combien il y en avait.
Ouais.
Je ne me souviens plus exactement. Ouais.
Ouais, non, mais c'est impressionnant. Ouais.
Attends, je vais regarder si je ne l'ai pas sur une seule photo, là, maintenant que je dis ça. Je crois que c'est dans, je ne sais plus dans quel Guinness des records où il avait parlé qu'il avait. Mais c'est impressionnant ce qu'il a. Mais c'est visible, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller le visiter, il suffit de prendre contact avec lui. Bien sûr, c'est payant comme tout ce genre d'éléments, mais ça te permet d'avoir, de voir exactement ce qu'il en est.
Donc d'ailleurs, on a plutôt un bon visuel. Et donc du coup, on continue donc avec notre histoire de Kenner. Bon, il y a d'autres produits qui sont évoqués, on va peut-être pas tous les prendre un par un. Mais déjà, ça c'est assez intéressant. Et puis on nous explique le côté exponentiel des jouets et que en fait, à chaque fois, ils attendaient le renouveau du prochain film pour pouvoir sortir de nouveaux produits. Parce qu'à un moment, quand tout le monde avait tous les produits de la gamme, eh bien, il fallait étendre la gamme avec les nouveaux films. Et qu'ils attendaient énormément l'arrivée de l'Empire Contre-Attaque, par exemple, pour fournir la collection. D'autant plus qu'il y avait les concurrents, les Musclor et compagnie, qui arrivaient sur le marché aussi, quoi. Et ils expliquent qu'à un moment, à la fin du Retour du Jedi, bon, bah, il y a énormément de monstres, etc. Et qu'ils ont pu à nouveau fournir pas mal la collection. Mais qu'à un moment, ils se sont retrouvés emmerdés parce qu'ils avaient tout fait. Et ils présentent une des techniques, d'ailleurs, qu'ils utilisaient, c'est qu'ils inventaient des vaisseaux qui n'existaient pas. C'est pour ça que dans les collections Kenner, on a des vaisseaux, on se dit, mais attends, il est où dans le film ce vaisseau? Mais non, il n'existait pas. Et que George Lucas prenait plaisir, d'ailleurs, à voir, en fait, l'existence de nouveaux vaisseaux et à créer, déjà, les prémices d'un univers étendu, finalement.
Les mini-rings, c'est ça, je crois, de mémoire.
Ouais, je sais plus, mais enfin, il y a différents vaisseaux qui sont créés, qui s'inspirent, en fait, des codes.
De l'univers, oui.
Voilà. Qui n'existait pas réellement et que du coup ils étaient emmerdés parce que quand ils créaient des gros vaisseaux ils étaient tellement chers que peu de gens pouvaient se les offrir alors qu'eux ils créaient des mini vaisseaux un petit peu comme la gamme Microfighter chez Lego à l'époque quoi. Et donc du coup ça faisait des jouets accessibles qu'ils ont d'ailleurs très bien vendus.
Pour revenir à l'histoire du feuilleton, on va dire du feuilleton de l'émission de télé, l'approche est vraiment intéressante, dire que au-delà de l'aspect fan de Star Wars, l'aspect comme tu parlais de la portée court, l'aspect marketing, l'aspect communication, fabrication est vraiment intéressante. Parce qu'on se rend compte qu'au départ, il n'y avait rien, quoi. C'est qu'ils sont partis, personne n'y croyait. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte que Star Wars ait pris cette ampleur, quoi. Parce que quand tu regardes au départ ce qu'ils racontent, c'était même pas parti pour faire ce que c'est aujourd'hui, quoi. Pour devenir ce que c'est aujourd'hui, pardon.
Et on peut se demander si les jouets, justement, n'ont pas entretenu un peu le mythe Star Wars, finalement.
Bah, c'était mettre la réalité dans tes mains, quoi. C'est-à-dire, surtout ça, c'est-à-dire que tu passais de l'aspect visuel à un aspect... tu joues avec, quoi.
Ah, il y a un mec qui le dit, ouais. Et on peut imaginer, d'ailleurs, que les films qui avaient, une histoire limitée dans le temps, le fait des jouets te permettait d'étendre, en fait, les histoires, l'univers, et que ce cadre linéaire et fermé, finalement, te permettait d'élargir, en fait, l'univers autant que tu voulais. Et c'est peut-être ça qui a entretenu le mythe de Star Wars et qui lui a donné autant de portée, quoi. Peut-être en plus, hein, tu vois.
Bah, je pense que Kenner a fait beaucoup aussi. Kenner, comme on voit les personnages qu'il a créés, toutes ces choses-là, les figurines comme il les a conçues, je pense que Kenner a fait beaucoup aussi, hein. Aussi bien que le film que les jouets.
Et puis du coup, après, donc, on a fini sur l'aspect déjà vintage, Raphaël, ou t'avais d'autres choses à...
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Voilà. Et ensuite, après, ils arrivent dans ce qu'on appelle cette période noire. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ils prennent un moment du film où Obi-Wan dit « Ah, c'était la période noire », et puis du coup, on retombe sur la période entre la prélogie et la trilogie. Ils expliquent d'ailleurs bien que George Lucas annonce que l'univers va continuer, mais que il y a une période de disette où bah voilà, Star Wars n'est plus du tout hype, plus personne ne veut acheter du Star Wars, et que du coup bah Kenner, bah, ils sont un peu embêtés, et qu'il faut attendre le fait que George Lucas se relance dans sa nouvelle trilogie et aussi le remake, en fait, enfin le remake, on va dire la nouvelle version de 97, pour que reparte la hype sur Star Wars et que soient relancés des nouveaux produits, mais plus sous la licence, enfin sous la marque Kenner, mais bien sous Hasbro. Donc on nous explique bien comment a été renégocié le contrat, et que là il a fallu jouer des coudes, parce que chaque marque de jouets, quand Kenner lâche le bébé, chaque marque de jouets veut absolument avoir cette poule aux œufs d'or, et on voit bien l'aspect comment rivalité et enjeu qu'il y avait à négocier la marque derrière.
Bon bah ça s'est vendu quand même, hein.
Ça s'est vendu, oui, que... puis ils sont, ouais, pas malheureux, je pense.
Ouais, ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment l'évolution entre le Hasbro et le Kenner dans les figurines en tant que telles, et puis dans les vaisseaux. Hasbro courait après sur la rentabilité de l'achat de la licence, on va dire, alors que Kenner, bon bah, c'était passé, c'était fini, quoi, voilà quoi. Mais ce qui me surprenait, c'est qu'ils n'avaient pas tant de choses que ça, les anciens de chez Kenner, au niveau des produits. Il n'y avait pas tant de garder de souvenirs de cette époque-là.
Par contre, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas beaucoup développé, tu sais, les premières figurines qui sont sorties dans les années 95-97, tu sais, où ils étaient un peu bodybuildés.
Bah, je crois que t'as la réponse à ta question.
Ouais, et je pense qu'ils devaient s'inspirer un peu des comics des années 90 où tout le monde était super costaud, super musclé, et en fait, elles n'ont pas super marché, et ils sont revenus à la recette des figurines de Kenner, d'ailleurs.
Ouais, c'était vache maigre pour les produits, quoi, parce qu'en plus, au public, à cette époque-là, on faisait des jouets... pour toute l'Europe, c'est-à-dire qu'il y avait qu'un jouet qui faisait avait la version italienne, la version française, la version sur la même carte. Donc, alors qu'avant, il y avait une carte spécifique pour chaque pays. Là, on ne l'avait plus. Maintenant, c'est une carte générique pour toute l'Europe, on va dire.
Et ils expliquent... Alors, il y a un truc, donc là, c'est sur l'aspect, l'époque de l'édition spéciale, hein, qu'ils ont refait. Et après, ils expliquent l'arrivée, justement, de l'épisode 1, où justement, ils étaient au taquet sur le marketing, ils en ont fait des caisses et des caisses, et qu'ils pensaient que... Et en fait, ça a fait une bulle spéculative, finalement, un petit peu, où, à la fin de l'épisode 1, ils sont loin d'avoir tout vendu, et que les produits Star Wars se retrouvaient dans les bacs promotionnels, finalement.
Oui, c'est aujourd'hui le problème, c'est qu'aujourd'hui, les discounters, si tu veux te faire plaisir en jouer dans l'achat de jouets, moi, je cours les discounters, parce que les discounters, aujourd'hui, ont tous les stocks de jouets des invendus de Noël, alors qu'avant, c'était pas le cas. Avant, il y avait pénurie. Là, il y a maintenant tellement de redondance dans les produits et il y a tellement un volume de fabrication que ça sert à rien. Il faut pas attendre Noël, hein, il faut attendre février. Hein. Tu vas dans et tu retrouves les mêmes produits 50-80% moins chers. Là, c'est le cas actuel sur les Lego qui sont à moins 40% chez certains ou au moins 50%. Star Wars, quand tu vois le prix d'une boîte Star Wars, tu peux dire « oui, quand même ». Et je pense que c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'épisode 1 était pour moi la meilleure exemple, le cas d'école de la surabondance. Moi, à l'époque, j'avais un magasin de jouets et vidéo, un magasin de jeux et de jouets. Je me souviens que les catalogues, mais j'en avais à l'appel. C'est-à-dire, j'avais tous les jouets que tu peux t'imaginer, ils les vendaient. Et t'en vendais aussi bien chez ton boucher, que chez ton charcutier, que TFF Star Wars, que toutes ces choses. Non, mais et c'est vrai, c'est la difficulté qu'on a eue par rapport à l'ancienne génération, où les jouets étaient distillés en petite quantité, t'allais acheter les vaisseaux dans les magasins spécialisés, d'accord ?
C'est plus challengeant pour toi, en gros, c'est ça ?
Ouais, voilà. Alors que maintenant, n'importe qui, quoi. Aujourd'hui, t'as le tailleur qui fait des casques, alors que l'autre a déjà fait des casques, t'as l'autre...
Et ta position à l'époque de l'épisode 1, toi, c'était quoi ta position, toi ? Est-ce que tu achetais tout, ou est-ce que du coup, tu t'es mis à filtrer aussi ?
Bah, c'est dur, parce que, comme question, parce que j'avais pas posé cette réflexion, mais t'es jamais posé cette question-là, mais... Avec du recul, comme j'ai au magasin, j'étais saturé de l'overdose. Voilà. Alors qu'à l'époque sortaient de nouveaux produits. Voilà. Les Atacus, les figurines, les statues qui n'existaient pas tant, fabriquées ou distribuées, n'existaient pas. Donc on a eu quand même des beaux produits disponibles. Quand ils disponibles, c'est heureusement qu'Atacus était français, on l'a supposé en France. Parce qu'autrement, les autres statues, on les aurait eu jamais. Jamais eu. C'est resté aux États-Unis. Point barre.
Ouais.
Mais voilà, l'épisode 1, c'était ça. Pour moi, l'épisode 1, c'était la petite goutte de l'overdose, quoi.
Donc voilà, donc il y a ce fameux épisode 1, et puis après bah on a une continuité sur, et ils expliquent qu'en fait d'ailleurs ils ressortent énormément d'anciennes figurines de l'époque sous des gammes pseudo vintage, en fait, quoi. On revoit des gammes Retour du Jedi et compagnie parce qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être presque plus de hype sur les anciennes figurines que sur les nouvelles, quoi.
Tu auras dit au moins 27 fois hype dans l'émission, hein.
Ouais, c'est le mot du jour. J'ai fait un pari, il fallait que je le place 200 fois dans l'émission, donc toi j'en suis à 50, donc accroche-toi. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter du coup sur la période prélogie du coup ? Parce qu'elle est beaucoup moins étoffée, hein, cette période-là.
Un grand manque de visibilité sur les jouets. Voilà. C'est qu'on fait tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on va sortir une série, tu peux très bien avoir des personnages de l'épisode 1, que l'épisode 3, 4, 5, 6, que. Et on a du mal à comprendre la logique. Voilà. Là, on a plus dans une logique de vente. C'est-à-dire, faut faire du volume, 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 faire du volume. Voilà. Et je pense que c'est un peu. C'est là où la collection s'est arrêtée, quoi. C'est-à-dire que les gens qui collectionnent sont arrêtés au vintage, voire aller un ou deux ans après, peut-être jusqu'à l'épisode, on va dire jusqu'à l'épisode 1. Mais après, ça s'est arrêté parce que, voilà, il y avait tellement, tellement. Puis après, c'était différent. Il y en avait partout. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, c'est. Dans les magasins spécialisés, tu trouvais ce type de produit. Mais là, je te disais, t'allais chez ton boucher, ils en vendaient. T'allais à la galette des rois, c'est la galette Star Wars.
Ouais, je me rappelle.
C'était sans queue ni tête. Voilà, ni queue ni tête.
Et, bah, d'ailleurs, pour le réveil de la force, on en était pas loin, mais j'ai trouvé que c'était moins poussif quand même.
Ouais, mais après, c'est pas de culture à nous. Hein. C'est déjà une culture européenne, n'a rien à voir avec une culture américaine. Hein. Voilà, c'est que toi, tu vas pas passer ta journée au centre commercial. Quoi.
Mais même aux États-Unis, qui eux ont beaucoup plus une culture mercantile, ça, il y a eu saturation aussi, quoi. Et d'ailleurs, les fans étaient presque déçus d'après les commentaires qu'on voit.
Ouais, mais il y a eu saturation parce qu'il y a pas que Star Wars maintenant. Il y a Marvel, tous ces Pixar et toutes ces choses-là. Ça veut dire que avant, il y avait que ça. Ouais, non, c'est pas choisir ton camp, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Quand Star Wars est arrivé, il n'y avait que Star Wars. C'est qu'après que tout s'est démocratisé, mais en 77, quand le film est arrivé, on évoquait ça avec, dans l'épisode 8, avec tous ces éléments-là qui m'avaient contrarié par rapport à la vision que tu as d'enfant du film et puis la vision d'adulte que tu as maintenant. C'est que les jouets, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà. C'est ton pote qui allait aux États-Unis qui te ramenait un produit de Star Wars. T'étais content. Et tu veux dire, t'ouvrais jamais la carte, hein. Tu l'as laissé dans le blister, hein. Mais c'était vraiment. C'était important. Et puis après est arrivé tous ces produits, la masse. T'allais faire tes grandes surfaces. Il y en avait plein de grandes surfaces en tête de gondole. Il y en avait partout. T'achetais une salière Star Wars, des serviettes de table Star Wars, des slips Star Wars, des maillots de bain Star Wars. Et t'avais perdu tous ces éléments-là. Voilà.
Et d'ailleurs, ils expliquent que peut-être certains au départ ont acheté en voulant spéculer et que oui. Un petit peu comme les comics aux États-Unis, maintenant la spéculation c'est plus possible. Est-ce qu'il y a des produits prélogiques qui ont une forte cote ou pas ?
Oui, tout ce qui est statuettes, encore certaines statuettes ou certains vaisseaux en MR ou dans des fabrications bien spécifiques.
Pas du Hasbro quoi.
Hasbro non.
Ouais. Donc les mecs qui ont acheté des quantités par exemple de Battle Droid en se disant plus tard ils ont stocké dans le grenier puis ça vaudra jamais rien quoi.
Ouais, moi je me souviens à l'époque dans mon magasin j'en ai des produits, alors ça fait faut mettre les choses dans le contexte, parce que quand je veux dire 110 francs mais genre me dire c'est 20 euros, c'est pas cher, mais 20 euros 110 francs à mon époque un jouet ça coûtait 30 francs quoi. Et là j'en vendais moi des blisters Star Wars à 120 francs voilà.
Ah mais t'avais un magasin à toi ?
Oui.
Ah mais j'ai pas su ça, tu m'as jamais dit.
Ah bah faut lire les profils sur Facebook, hein, monsieur. Les profils. Tu sais qu'on a un profil dans l'émission où j'explique tout ça.
Et du coup t'étais en association, non c'est ça ? Tu faisais comment
J'avais un magasin de jouets et de jeux vidéo.
Ouais.
Et j'avais les jouets. Dans les jouets on vendait ces produits-là à pression quoi. Moi je me souviens de vendre le vaisseau de la reine Amidala à l'époque. Je le vendais 1200 francs. Donc ça fait 600 euros. Mais à l'époque, 1200 francs, c'était inimaginable pour un jouet. Voilà. Et c'est là que les gens l'ont acheté, parce que pour eux, ils voulaient spéculer dessus. Voilà.
Ouais, donc du coup, ils ont spéculé à tort.
Exactement.
Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la période prélogique. Après est arrivé, donc du coup, ils ont eu la chance, en attendant le rachat de Disney, d'avoir des extensions possibles avec tout ce qui était les séries télé. Donc ils évoquent l'exemple de The Clone Wars, hein, où il y avait énormément de nouveaux personnages. Donc ça a pu faire des figurines, bon, une hype un peu moins présente. Et puis après, bon, ils évoquent, mais un peu trop rapidement, le rachat de Disney, avec du coup la nouvelle gamme. Et finalement, c'est plus... La manière dont ils en parlent, j'ai plus pris comme une question d'ouverture, quoi. Et maintenant qu'il y a Disney, voilà, qu'est-ce que ça va devenir ? Bon, ils parlent rapidement, voilà, du fait qu'il va y avoir, qu'il y a une possibilité infinie de films et donc de personnages, mais ils apportent pas vraiment de réponse, et d'ailleurs, ça peut se comprendre, quoi. Mais ils développent assez peu la période finale.
Bah, ce qu'on découvre dans le documentaire, c'est que ça soit Kenner ou Hasbro, ils ont tous gagné de l'argent dessus. Ça, on en est sûr.
Il n'y a pas eu de malheureux.
Mais on ne sait pas ce qu'ils ont perdu derrière. C'est-à-dire, on ne sait pas les quantités ou les volumes qui sont passés à la benne ou qui ont été détruits, ça on le sait pas. Voilà. On sait que Kenner c'était en flux tendu. Hasbro, je suis prêt à parler que si aujourd'hui je suis dans une solderie, on trouve de l'Hasbro, quoi. Voilà. Donc, ça n'a pas été trop abordé. Je trouve que l'aspect. Je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de Kenner, de l'origine, on va dire. On a un peu regardé Hasbro, et puis on a laissé partir sur Disney. Voilà. Parce qu'on a encore du mal. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à comprendre. Et là, si quelqu'un peut m'apporter une réponse, qu'il ne se gêne pas à m'envoyer un email ou me faire ça sur Facebook, la logique de Disney sur les jouets. Voilà.
Parce que, Raphaël, je vais te poser une question. Quid des contrats entre Hasbro et Disney? Du coup, ils existent toujours ou comment ça se passe? Est-ce que les contrats sont renégociés à ce moment-là?
Eh bien, on ne sait pas. D'après moi, ça s'est fait, bien sûr. Est-ce que je ne pense pas qu'ils ont pu laisser passer la chose? Mais Hasbro, qu'ils ont signé avec George Lucas au départ. Alors, d'après moi, d'avoir toujours cette difficulté-là, c'est qu'Hasbro doit toujours être propriétaire aujourd'hui de certains produits, d'accord, de la fabrication de conception. Peut-être que les choses ont été relancées. Il faut oublier que Disney est un fabricant aussi. Il fait des jouets. Donc des fois, j'ai du mal à comprendre la philosophie de l'un et de l'autre.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que le contrat avait une échéance ou pas? Parce que s'il n'y a pas d'échéance, a priori, en rachetant Lucasfilm, on rachète les contrats qui vont avec, quoi.
Là, c'est technique. Là, j'essaierai de... Tiens, je poserai la question là, à deux ou trois gros collectionneurs pour penser ce qu'ils en pensent, eux, de ce point de vue, on va dire, financier.
On fera une émission contractuelle.
Ouais, contractuelle, ouais, c'est ça. Pour voir... pour moi, ça reste un grand flou artistique. Voilà. Voilà, mais ça sera dans d'autres émissions où j'évoquerai la difficulté de comprendre la logique de vente des produits et des jouets, même encore actuellement, entre Hasbro et Disney et toutes ces choses-là, et entre Disney France, Disney Allemand, Disney Angleterre. Pourquoi c'est différent qu'on ne trouve pas les mêmes jouets au même endroit? Voilà, ça fera partie d'un autre débat qu'on aura dans une prochaine émission, je pense.
Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, vraiment mercantile, distribution, etc. Il y a un autre aspect qui est abordé aussi, c'est le ressenti. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont interviewés. Et moi, il y en a un qui m'a touché et qui disait qu'en fait, ce qui était bien, c'est que pour quelqu'un qui aimait la science-fiction, en fait, et tu l'as plus ou moins évoqué tout à l'heure déjà, il n'y avait pas possibilité de matérialiser tout ça n'existe pas. Et que si tu avais envie de pouvoir toucher ou de rentrer plus, d'avoir une immersion un peu plus grande dans l'univers, t'avais pas de possibilité et que le seul moyen c'était d'acheter les jouets et qu'en ayant ces jouets qui sont en 3D, qui sont quelque part vivants, même si tu n'y joues plus, le fait de les avoir en modèle physique et 3D et on va dire tangible, c'était un moyen de faire en sorte que l'univers existe. Et le gars qui est interviewé, tu sais, il a énormément de figurines derrière. Il a au moins, je sais plus combien, une quarantaine de Han Solo dans ça. Et plein d'autres. Hein. On sent qu'il a quasiment une collection exhaustive des Hasbro. J'ai trouvé que son témoignage était vachement pertinent, tu vois, d'un point de vue analyse. Et j'ai trouvé que ça, c'était cool déjà.
Non, mais l'émission est bien construite là-dessus. Hein. Parce que c'est pas pour le jeter des fleurs en elle-même à la fabrication de l'émission. Mais je trouve que l'approche qu'ils ont eue est vraiment saine. C'est-à-dire que les gens qui parlent dedans, ces gens qui parlent, c'est pas qu'au cours de la plus grosse, on va dire, c'est la passion qui passait devant. Et ils expliquaient, en fait, à la limite, alors le mot est fort pour dire traumatisme, mais la césure qu'il y a eu entre Kenner et Hasbro dans leur esprit de collectionneur, d'accord ? Et on voit bien qu'il y a plus de facilité à collectionner 150 Han Solo de l'époque Kenner que collectionner 10 Hasbro d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est une philosophie qui est partagée. Et puis, ce que tu dis est intéressant. C'est-à-dire, moi, je pourrais être ton grand-père et toi, tu pourrais être mon fils. C'est ce qu'on disait la dernière fois en plaisantant. La philosophie est différente aux époques. Nous, on n'avait pas cette culture de science-fiction. Elle était limitée. Les comics étaient limités. Nous, à l'époque, c'était Puff Gadget, quoi. Et dans Puff Gadget, il n'y avait pas de science-fiction parce que le Parti communiste veillait au grain de la communication de propagande américaine aussi. Donc, il faut bien voir aussi que nous, on était un peu... comment dire, on n'avait pas cette approche-là à mon âge. On avait un peu de Strange qui apportait un peu de science-fiction, mais pas les médias. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la télé où on parlait de Strange, où on parlait de Star Wars. Il n'y avait que le cinéma. Et le cinéma, ce n'est pas comme aujourd'hui où tu as un cinéma dans chaque ville, un multiplex, sauf dans ma ville, bien sûr. Mais à l'époque, tu allais au cinéma comme tu allais au repas du dimanche. Voilà. Donc c'est toute une cérémonie qui n'existe plus maintenant. Et il faut bien mettre ça que dans l'approche du jouet, dans l'approche du film, il faut le mettre dans le contexte. C'est quelque chose que j'avais évoqué la dernière fois quand on parlait de l'épisode 8, où je disais que c'était différent pour moi de voir un épisode 8 à mon âge, bientôt 50 ans, que de le voir quand t'as 15 ans. Voilà. Et à 15 ans, quand tu ne connais rien d'autre de la science-fiction, que des livres ou que des romans. Voilà.
J'arrive à, si tu veux, à me projeter dans ton témoignage, à savoir qu'en fait, finalement, quand t'allais voir un film, imaginons, tu vas voir, je sais pas, L'Empire Contre-Attaque. Moi, les potes qui ont à peu près ton âge, qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai été voir L'Empire Contre-Attaque. À l'époque, tu pouvais pas te dire, allez, dans 6 mois, je me le télécharge ou je me l'achète en DVD et puis je me le remate tant que je veux. Parce que vous, au tout début, j'imagine, en 77, je veux dire, tu vois le film, tu rentres chez toi, alors tu peux aller le revoir une ou deux fois, mais après, t'as plus de possibilité de retrouver cette immersion, et la seule manière de maintenir l'immersion dans l'univers, t'as que les jouets qui pouvaient te permettre de continuer.
Tu vois, mais dans ton approche, t'as dit le voir une ou deux fois, mais c'était pas pensable. À l'époque, t'allais voir un film, t'allais voir qu'une fois.
Ouais,
c'était culturel.
Donc c'était uniquement sur le souvenir, en fait.
Le souvenir, voilà. Le souvenir, t'étais émerveillé, quoi, voilà. Parce qu'on n'était pas pollué par d'autres réseaux ou d'autres signes extérieurs. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les médias qui nous... Il n'y avait pas les magazines spécialisés, il n'y avait pas la radio. La radio, tu écoutais, ça va être RTL, toutes ces choses-là. Je vais passer pour un vieux con à la fin. mais vraiment, le jouet, c'était ça. C'était vraiment la possibilité de faire un transfert du film à ton quotidien. Voilà. Mais c'était merveilleux. Je ne dis pas que ce n'est pas merveilleux maintenant. Hein. Mais je vois, quand je parle avec mes enfants, l'approche est complètement différente, tu vois, dans le jouet et dans tous ces éléments-là. Quoi. Mais c'est pour ça que je dis que Kenner, à l'époque... a vraiment apporté ce petit truc, quoi, qui a fait qu'il y a des collectionneurs aujourd'hui qui font ce qu'ils sont, quoi, qui ont des collections phénoménales avec des produits phénoménaux, et qui restent pour moi des choses incroyables. Aujourd'hui, je vois pas une personne qui est content d'avoir un pod racer de l'épisode 1 chez lui, mais quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un bout de la table de Jabba ou qui est sur son trône, c'est exceptionnel. Voilà, tu vois, l'approche est complètement différente. Voilà. Ça, la banalisation a fait qu'on y apporte moins d'attention.
Et alors, du coup, t'abordes aussi un élément, c'est que en tant qu'enfant, et ça c'est très bien retranscrit dans l'émission, ouais. Les mecs, ils étaient, alors certes, ils faisaient du business, mais les points de vue qu'on a, c'est surtout les points de vue des créatifs. Et alors, est-ce que les mecs mentent ou pas, je sais pas, mais ils disaient qu'à l'époque, en fait, et dans chaque émission, c'est très bien rendu, hein, que ce soit sur Barbie, sur n'importe quoi, ils pensaient, on va dire entre guillemets, d'un point de vue métaphorique, aux lumières qu'ils allaient mettre dans les yeux des enfants, au bonheur qu'ils allaient leur apporter. Et effectivement, les mecs, ils ont tellement réussi leur pari. Alors certes, c'est des visions avant tout qui sont mercantiles, puisque la finalité, elle est financière, et que effectivement ils veulent faire du profit, etc. Donc les gens pourraient dire, les capitalistes et tout, machin, le bonheur se trouve pas dans l'argent, machin. Oui, je suis d'accord. Il n'empêche que quand t'es gamin, comme tu vois pas ça, c'est comme quand tu vois à Disney, bien évidemment que quand tu vas à Disney, il y a du pognon, il y a du... etc. derrière, mais bien évidemment. Mais par contre, il n'empêche que quand t'es gamin, le bonheur que ça t'apporte, moi j'ai souvenir étant gamin de tout ce que ça m'a apporté, et le titre de l'émission est pour ça bien trouvé, The Toys That Made Us, parce que moi ça m'a façonné étant gamin, ça m'a, et ils expliquent d'ailleurs, bon c'est autre chose, mais dans Les Maîtres de l'Univers, c'était l'inverse, c'était le jouet qui créait la série et qu'ils essayaient d'y mettre des valeurs, des choses qui te permettaient d'évoluer. Et je trouve que ça, moi, ça a développé ma créativité, mon ouverture d'esprit, ça, alors si j'en ai une, hein, mais je trouve que c'est quelque chose qui vraiment est vraiment 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 puissant, quoi, et que aujourd'hui, moi, quand je vois mon gamin jouer et que je le vois, il me raconte, il me raconte le contexte, etc. Je me dis putain, tu vas avoir 4 ans et tu vas être capable d'imaginer un contexte, hein, des environnements, des personnalités, des distorsions dans l'histoire. Je trouve que c'est vraiment, je trouve que ça développe l'intelligence, et en même temps ça te fait ça donne du bonheur. Et moi j'ai eu des papillons dans les yeux toute mon enfance, et j'avais un pote qui, pour me chambrer quand j'ai mis la mission, m'a mis en commentaire Facebook, et si t'as grandi dans la misère et que t'as pas pu avoir ces jouets, est-ce que ça a un intérêt, cette émission? Ben oui, quand même, puisque finalement, alors bien sûr la question, elle était volontairement un peu provoque, c'est-à-dire dire oui, vous avez eu de la chance d'avoir des jouets, encore que le montant de ces jouets, finalement, moi je vois, à l'époque, je me rappelle quand j'ai eu mon premier Skeletor, c'était ma première action figure, je me rappelle, on l'avait acheté à Leclerc 20 francs, moi c'est ma grand-mère qui m'a acheté ça, comme elle achetait, tu vois, un paquet de gâteaux, quoi, finalement. Donc je suis pas sûr qu'à l'époque, finalement, il y avait une discrimination financière.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que la discrimination financière, je trouve ça bien de l'évoquer. On est dans l'America Way of Life, d'accord, à l'époque de l'Amérique. Donc les gens consommaient, d'accord. C'était aussi un moyen de consommer les jouets à l'époque. Tout allait bien aux États-Unis, tout était bien, on était dans le meilleur des mondes, on est dans l'espace. Donc c'était aussi, c'était ça, ces éléments de consommation. Hein. En France, les jouets n'étaient pas distribués de la même façon, déjà. C'était Galerie Lafayette, dans les grands magasins parisiens.
Non, moi j'ai acheté à Leclerc mon Skeletor.
Ouais, ouais. Non, mais tu. Mais, en quelle année?
Bah, j'étais en moyenne, en grande section, donc j'avais 5 ans, j'avais 88.
88. 88, j'avais déjà 18 ans. Donc tu t'imagines. Ouais, okay. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est que moi j'étais d'un milieu hyper modeste. Hein. Mais quand je dis modeste, c'est père artisan, mère et compagnie. Donc les jouets, on les avait pas. Mais on pouvait s'imaginer les avoir, parce que dans Puff Gadget, t'avais la pub. T'avais la pub du jouet. Donc, si tu pouvais en avoir qu'un, c'était génial. Mais après, un, puis ton copain en avait un, puis à l'autre, t'en avais un. Avec trois copains, tu faisais une série, quoi. Tu pouvais te battre et ces éléments-là. C'était aussi ça qu'il fallait prendre en compte. C'est que l'imaginaire a fait beaucoup pour Star Wars à l'époque, comme les jouets ont fait beaucoup pour pérenniser, pour faire une suite. Et puis, comme on l'évoquait, hein, un film qui a un épisode, un deuxième épisode et un troisième épisode, à l'époque, ça n'existait même pas. Voilà, à part Sissi l'apparatrice, Sissi va chercher du Nutella, se fait taper, Sissi découvre comment faire du ski, Sissi
retrouve... Ah, t'avais les Martines aussi.
Ouais, les Martines, oui, c'est ça. Donc voilà, donc c'est aussi ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Il faut essayer de s'enlever de la référence actuelle du jouet, de l'aspect financier, de l'aspect, aujourd'hui on est salariés tous les deux, donc ces aspects-là, pour revenir à l'aspect des années 80, où là, c'était complètement différent dans l'approche. Aux États-Unis, c'était tout allait bien aux États-Unis, à part quelques éléments, mais c'était dans le bon développement de la bonne structure américaine. Tout le monde rêvait d'aller aux États-Unis, donc c'était aussi que c'est tombé au bon moment. Voilà. Mais
alors pour aller dans ton sens, effectivement, le bonheur venait pas de l'abondance de jouets, mais le fait d'en avoir. Et d'ailleurs, j'aurais tendance même à dire, tu sais, dans mon aspect un petit peu fantasmé le truc, que moins t'en as, mieux c'est finalement, parce que moi les meilleurs moments, c'est mes premières figurines que j'ai eues. Et j'ai fait plusieurs collections étant gamin, mais mes meilleurs moments, c'est quand tu commences la collecte. Et je me rappelle que la toute première que j'ai fait, ça a été les Maîtres de l'Univers. C'est pour ça que d'ailleurs elle est évoquée dans The Toys That Made Us, cette collection. Et ça m'a, j'en ai chialé, quoi. Vraiment, ça m'a rappelé tellement de bons moments. Et je me rappelle le premier que j'ai eu, c'était le Skeletor ou le Musclor. Je sais plus dans quel sens je les ai eu, mais il s'est passé plusieurs mois avant que j'aie le deuxième. Mais rien qu'avec une figurine, j'ai passé des heures à jouer et je me disais, ah, oh, vivement que j'ai l'autre, enfin le Musclor et Skeletor. Et quand je les ai eu les deux, mais j'étais comme un fou. Et pourtant j'avais que deux figurines. Je passais mes journées à jouer avec ça. Et je prenais des animaux de la ferme que je trouvais, des vieux jouets de mon grand-père, enfin de mon oncle, qui était dans le grenier. Et je m'imaginais des scénarios incroyables avec peu de choses, et que la richesse venait pas de l'abondance, mais de la projection que tu pouvais en faire. Et je trouve que c'est très bien rendu, et que les témoignages des mecs qui ont fait ça sont vraiment puissants, et que finalement la barrière venait peut-être pas, était à mon avis pas au sens financier, parce que à l'inverse, j'avais des potes qui avaient tout quoi. T'avais des mecs voilà, les parents pharmaciens, t'arrivais à la chambre de jeu, elle était remplie. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec mes enfants, mais est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas, mais j'achète énormément, mais parce que je me fais plaisir aussi, donc je sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, le fait est que abondance ou pas abondance, je pense que tu pouvais prendre autant de plaisir. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Ah bah si, parce que je soulève rien, moi je t'aurais engueulé. Mais on va arrêter de parler que de cette série-là sur Netflix, parce qu'on va parler des deux autres, parce qu'après ça va faire une émission qui va durer trop longtemps, puis les gens vont encore nous dire « c'est trop long !»
Ouais, exactement. Donc, du coup, voilà pour ce qui est de cette série The Toys That Made Us. Allez-y, franchement, ça va faire vibrer votre corde sentimentale. Allez-y, vraiment. Alors par contre, juste une petite anecdote, c'est que moi, à l'époque, gamin, j'ai jamais eu de jeu Star Wars. J'étais fan de la franchise, mais comme tu vois l'âge auquel je suis né en 83, je suis né pour le Retour du Jedi, et quand j'ai eu l'âge d'avoir les premières figurines, dans les magasins, il n'y avait plus ces figurines-là. Donc j'ai même jamais su qu'elles existaient, et c'est des années plus tard, j'ai eu un petit voisin, quand j'avais 10 ans, qui m'a sorti, il avait un AT-ST, quelques figurines, et je m'étais dit, mais ça existe ces jouets. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi je n'ai jamais eu? Et j'étais allé dans les jouets, on m'a dit, mais non, dans les magasins de jouets, on m'a dit, mais non, ça n'existe plus depuis des années. Et j'étais vraiment frustré d'avoir dû jouer avec les autres, mais ce voisin me faisait tellement envie. Et un jour, il est revenu, et je lui dis, ils sont où tes jouets? Je les ai échangés contre des Transformers. Et je me rappelle, j'avais vu ces Transformers tout moche, mais je m'étais dit, mais quel con! Parce que je trouvais, il avait une chance inouïe d'avoir ces jouets, et c'est la seule fois où j'en ai vu étant gamin. Et le mec les a échangés contre des Transformers. Donc voilà.
Bien Transformers.
Ouais, mais enfin, du coup, moi à l'époque, c'était vraiment les jouets que je voulais absolument. Et puis du coup, je me rattrape maintenant, voilà, avec les enfants, quoi. Et on va parler. Toi, tu voulais parler d'une autre émission qui s'appelle Toys Hunter, c'est ça?
Toys Hunters. Ouais, c'est l'émission qui est passée sur le câble. C'est l'histoire d'un collectionneur de jouets, un revendeur de jouets, qui lui parcourt les États-Unis, il rachète des collections, d'accord, et après il les met en vente sur différents salons, toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant dans cette émission de Toy Hunter, si certains peuvent, je crois qu'on peut le télécharger de façon légale sur YouTube, on peut ouais. le voir. Je le conseille parce qu'en fait, c'est une très bonne approche du jouet, de se rendre compte aussi l'étendue du jouet. C'est-à-dire l'étendue du jouet, c'est que là on parle de Star Wars, mais dans Toy Hunter, on parle pas que de Star Wars, on parle des autres jouets, comme dans la même série-là. Mais quand on parle de Star Wars dans cette série-là, on se rend compte que même lui, encore, dans ses recherches, il arrive à trouver des trucs que tu t'imagines même pas que ça puisse exister. C'est-à-dire que dans son émission, il va dénicher des séries de Star Wars, des 12 bacs d'origine. Il a trouvé quelqu'un qui les vendait dans leur boîte d'origine et compagnie. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant dans cette émission-là. C'est qu'on se rend compte que la chasse est toujours la même, d'accord ? Que la chasse s'est aussi un peu calmée parce que beaucoup de gens ont déjà tout, ce qui laisse un peu plus de facilité aux autres. Sauf que le problème, c'est quand tu veux une pièce, que la personne, il lui reste plus que cette pièce pour compléter sa collection, et puis que son 10, bah, au lieu d'acheter 20 euros, tu vas l'acheter 500 euros. Parce que lui, il s'en fout de mettre 500 euros, c'est la dernière pièce qui lui manque.
Ouais,
il lui est au taquet. Donc, c'est ça, à peu près, la distorsion de la concurrence, la distorsion flagrante de la concurrence, c'est-à-dire qui fait que tu te fais avoir dans ce type de choses, d'éléments. Mais dans Toy Hunter, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on voit l'aspect achat et l'aspect vente du produit sur les salons. Et là, tu te rends compte que culturellement, qu'aux États-Unis, les mecs, ils ont pas peur de sortir 2000, 3000, 5000, 10 000 dollars pour acheter une figurine. Que toi, tu ferais ça en France, on te prendrait pour un malade mental. Voilà. Sauf que t'achètes Nicky Toys, on trouvera ça normal. Et c'est là qu'est important, parce qu'on se rend compte de la culture du jouet, comme dans le Star Wars Kenner et Hasbro, qu'aux États-Unis, l'approche était complètement différente sur l'aspect mercantile du jouet, sur l'aspect achat, sur l'aspect grande distribution du jouet qu'on ne connaissait pas chez notre époque. Hein. Nous, on avait du mécano, c'est fabriqué des voitures en ferraille avec des vis et choses-là, des boulons et compagnie. C'était plus dans des jouets ludiques, tu vois. On était plus dans cette culture-là, qu'il fallait faire des jouets qui t'apportent quelque chose, construire une maison, construire une voiture. Dans les cas, c'est des jouets finis, hein, Star Wars. C'est-à-dire que tu avais les figurines, tu ne pouvais rien faire d'autre avec. Hein.
Mais si, le jeu, il était ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était un jeu créatif dans le scénario. Mais à l'époque, peut-être qu'ils n'avaient pas conceptualisé qu'il y avait aussi une forme d'intelligence qui se développait avec des jouets finis, finalement.
Ouais, et puis surtout, dans l'approche de cette série Toy Hunter, c'est qu'on voit différents jouets, différentes cultures de jouets, et on se rend compte aussi qu'à travers ces éléments-là, que quand on voit il va chez un collectionneur, ce qui est surprenant, c'est que les Américains avaient cette culture de garder tout sur carte, alors que nous, on ouvrait tout. Alors qu'aux États-Unis, ils ont ce type de conserver beaucoup de jouets dans leur emballage d'origine. Et ce qui est surprenant, c'est dans l'émission, tu vois que le mec ne s'intéresse pas à des jouets. Et toi, tu regardes le jouet, tu dis, attends, moi j'achète ça, je rêve de l'avoir. Et tu vois, ce qui est bien dans ces émissions-là, comme celle que tu viens d'évoquer, puis la deuxième que je viens d'évoquer, puis la troisième que tu as évoquée après, c'est qu'on se rend compte de l'aspect culturel du jouet Star Wars aux États-Unis, qui est complètement différent de notre approche méditerranéen, on va dire, européen. Et c'est pour ça, ça fait bien de faire le lien entre les deux pour se rendre compte que la distribution des joueurs était complètement différente parce que le public était complètement différent. Donc ça veut dire qu'ils avaient très bien réfléchi à tous ces éléments-là. Ce qui est quand même grandiose, c'est qu'ils ont changé pourquoi distribuer dans tel magasin, parce que dans tel magasin de jouets en France, ces magasins un peu plus haut de gamme en jouets permettaient de pouvoir vendre des produits de façon plus naturelle.
Par contre, la proportion de jouets Star Wars, c'est assez infime, j'imagine, dans Toys Hunter, non ?
Ouais, on achète souvent parce qu'on se rend compte du volume qu'il y a chez les gens.
Ah, mais du volume, je pense que je vais en regarder à midi, là, je vais manger devant.
D'accord, mais c'est impressionnant de se rendre compte de... Là, vous pleurez, c'est des mecs, ils ont des garages, quoi, des garages de jouets. Et toi, tu m'avais évoqué l'autre émission, je crois, qui se passe à Las Vegas, c'est
voilà,
ça ?
Donc l'autre émission, c'est Pawn Stars, hein, c'est un prêteur sur gage, donc tout le monde doit connaître. Hein, moi, je sais, quand j'en parle aux élèves, tout le monde connaît ça. Et du coup, ils rachètent, enfin les produits qu'on nous présente, c'est uniquement des produits plus ou moins collector, mais dans tous les thèmes. Hein, c'est pas forcément que le jouet. Et ils ont fait une émission spéciale sur Star Wars où ils ont différents produits qu'ils achètent. Je crois que au tout début, ils commencent par racheter une collection de Kenner, justement en blister, dont un fameux Jawa, tu sais, qui est super rare, donc je sais pas si ça te parle.
Oui, c'est la vinyl cap, c'est sa cape en fait. Sa cape, elle est soit en tissu, soit en vinyle, et la version avec la cape vinyle est très très rare et très 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 onéreuse.
Sauf que ce qui est marrant, c'est que les mecs, ils arrivent avec ces jouets, et le gars qui rachète, le gars, le prêteur sur gage, n'a jamais vu Star Wars et ne connaît rien à Star Wars. Alors ça vaut justement des points, et t'as son collègue qui lui dit mais non, ça vaut le coup, achète, ça va se revendre, et lui, il y connaît vraiment rien, il dit ouais, moi Star Wars, donc le mec... Limite pour un fan de Star Wars, ça fait presque provoque. Il dit ouais, moi j'y connais rien, c'est des conneries, machin. Et à la fin d'ailleurs de l'émission, il se met à. Bon, c'est plus pour. Je pense c'est plus pour le scénario de l'émission. À la fin, tu le vois sur un portable, il essaye de regarder un Star Wars pour voir ce que c'est. Mais c'est assez rigolo, surtout aux États-Unis où c'est vraiment culturel, quoi. Où je pense que tout le monde l'a vu. Et donc, il rachète les figurines, mais il sait que ça va se vendre, mais il trouve que c'est pas super intéressant. Et il en propose, tu verras, il y a tout un lot, tu peux la trouver. Je l'ai vu hier encore sur Dailymotion, je me suis rematé pour rafraîchir. Il lui propose à la base, je crois, 11 000 euros le lot, et il rachète ça finalement 7 000 euros le lot des figurines, et elles sont en état parfait. Et dont il y a le Jawa qui vaut, je crois, 7 ou 8 000 euros déjà, rien que déjà, donc tu sais que le mec va marger. Hein.
Ouais, et puis cette émission de télé, il faut pas oublier que tout est scénarisé, tout est fait en sorte pour que ça se passe bien. Parce que les vendeurs de Podstar n'existent pas en vrai, hein, c'est des comédiens. Dans l'émission, dans le magasin, ils y sont jamais. Hein. Bah, je te le confirme, ouais, hein, malheureusement.
Ouais. Mais bon, enfin, tout ça pour dire que, bah voilà, quoi, c'est assez rigolo. Et puis, tu sais, il y a tout l'aspect, les gars sont interviewés. Alors, bien évidemment, peut-être que c'est monté, mais c'est assez rigolo, tu vois. Puis tu vois les produits, tu vois, il y a une petite négo à chaque fois. Mais des fois, quand même, les mecs repartent sans vendre. Ils disent, ah non, bah, il m'en a pas proposé ouais, assez.
C'est de l'entertainment, hein. C'est le divertissement, c'est l'émission. Après, de toujours acheter, on est bien d'accord, là j'en suis conscient. Moi, pour coller dans mon magasin, je rachetais des vieux jouets. Des gens pensaient qu'ils avaient dans leurs mains une mine d'or.
De l'or, ouais.
Et de l'or, ça vaut rien tant que personne ne te l'achète. Hein. Voilà.
Et d'ailleurs, pour illustrer ce que tu dis, il y a un deuxième produit qui est proposé. Je sais pas si tu le connaissais, c'était la cantina de Jabba le Hutt en Play-Doh. Donc la pâte à modeler.
Oui.
Et le mec arrive et puis finalement je crois qu'il doit lui racheter ça 40$ quoi. Alors que moi en voyant le produit je me dis waouh mais je connaissais même pas, ça doit valoir super cher. Et non ça vaut que dalle.
Ah il y a quand même, j'avais lu un article, il y a 72 000 produits qui existent de Star Wars, donc on peut pas tous les connaître hein.
Et donc j'ai trouvé ça super rigolo quoi. Puis donc tu fais ton Jabba le Hutt avec les moules Play-Doh et t'avais différents personnages de Salacia Scrub, t'avais un Luke et puis d'autres personnages de la cantina. Je trouve que c'était marrant, le concept était rigolo. Après qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, il y avait une glacière R2D2, donc c'est R2D2 et tu l'ouvres et tu mets des trucs dedans. Et là par contre, c'est un autre mec du magasin et il dit qu'il sent que ouais, il y a du fric à se faire. Et après on finit le tout. Ah oui, très intéressant dans le tout premier produit, c'est une affiche de la revanche du Jedi. C'est-à-dire que c'est les premières affiches, tu sais, qui avaient été présentées avant qu'ils se disent bah non, le Jedi ne se venge pas parce qu'il est trop pieux, donc il peut que faire un retour. Et qu'ils avaient changé les affiches au dernier moment. Mais ils avaient édité, un petit peu comme le Boba Fett, des premières affiches prototypes. Et le gars en avait récupéré une, elles étaient présentées dans les ciné, et il l'avait changé après, donc là l'affiche vaut du pognon quoi. Alors qu'il y a une petite anecdote, c'est que l'affiche a légèrement pris l'humidité, donc elle est un peu voilée quoi. Il dit bah non, ça du coup ça vaut moins. Donc ça, tout ça c'est intéressant quoi.
Alors une petite dédicace à Michel s'il écoute l'émission, puisque c'est un gros collectionneur d'affiches de cinéma, d'accord. Et quand est-ce que tu m'en files une? Merci. Non, pour revenir sur l'histoire de l'affiche, là, ouais, ce qui est impressionnant, c'est en fait, c'est des pré-modèles, c'est-à-dire que c'est des modèles kits qui mettent à distribution des distributeurs pour présenter les maquettes de produits avant leur sortie officielle. Voilà. Ce qu'on appelle les press kits dans le jargon, on va dire.
Et je trouve que la petite anecdote sur le fait que voilà, le Jedi ne se venge pas et tout, bon, je la connaissais déjà, mais je trouve que c'était bien. C'est des petites anecdotes assez intéressantes qu'on a sur ce genre d'émission. Après, en regardant des émissions classiques, des fois je tombe dessus à la télé quand je glandouille, je m'en regarde une, mais j'ai très rarement vu tomber sur des jouets Star Wars. J'ai dû voir une fois, c'est tout, quoi. Sinon, c'est assez rare.
Ouais, c'est rare parce qu'il y a un marché parallèle et puis ils savent pertinemment que c'est pas le genre de produit que tu mets dans une maison sur gage. Là, j'ai des copains qui ont été voir, bon, c'est pour ça que je sais que c'est tout monté, que c'est une production. Parce que j'ai des copains qui ont été à Las Vegas voir le fameux magasin.
Mais j'ai un copain qui est aussi. Il m'a dit qu'il n'y avait que dalle.
Il n'y a que dalle dans le magasin. Et les prix sont exorbitants. Mais c'est inimaginable le prix où ils vendent des produits. Quoi. Et en fait, en visitant ces éléments-là, ils ont pu visiter les studios où sont tournées l'émission. Donc là, ils ont découvert que c'était une émission. Et puis, ils ont découvert que d'autres émissions qui étaient aussi similaires à celle-ci étaient en fait ni plus ni moins que des émissions de divertissement avec des comédiens payés à la tâche, à la mission, qui jouaient des rôles. Ça enlevait un peu la magie.
Et tu crois que les mecs qui amènent les produits ne les vendent pas réellement?
Non, il n'y a aucune vente, c'est que pour faire du buzz. Il n'y a pas de choses derrière, ouais.
Quoi qu'ils ne leur achètent vraiment pas le truc.
Non, ils n'achètent pas, pas du tout. Ils n'achètent vraiment pas, c'est du cinéma.
Du coup, ça y est, tu m'as pourri mon émission. Moi, je pensais au moins que le mec allait l'acheter réellement et qu'ils allaient le mettre en vente, quoi, tu vois, mais même pas. Donc en fait, ils appellent un collectionneur.
Toi, tu crois que les filles alertent à Malibu, si tu te noies, elles vont te sauver.
Ah putain, c'est pas le cas.
Bah non.
Oh bah putain, faut que j'apprenne à nager alors.
Bye.
Non mais je pensais réellement, si tu veux, qu'il y avait au moins, si tu veux, un voilà, que la vente se faisait, que tu voyais un élément concret. Mais alors là, effectivement, si c'est fake à 100%, ça y a moins d'intérêt.
Est-ce qu'à un moment tu as vu l'argent?
Ouais, enfin oui, non mais on est d'accord. Après, si tu veux,
voilà, on a jamais vu l'argent, donc ça se fait pas.
Ah, écoute, je suis super déçu. Bon après, c'est pas non plus un enjeu de ma vie de regarder Pawnstar, hein. Je regardais ça, ouais. Tu vois, à la marge.
T'imagines qu'à un instant, que le mec il vient avec un micro autour du cou, tout est bien, il a un micro.
Ah non, non mais ça, oui, je suis bien voilà. D'accord que c'était scénarisé.
On est bien d'accord, ils viennent pas au hasard.
Non mais je pense que ce soit mis en scène, tu vois, bien évidemment que les gars aient répété leur scénario, oui, mais je pensais au moins que t'étais sur une vraie transaction. Donc je suis un peu déçu. Bon, tant pis. Donc voilà pour des émissions qu'on peut vous conseiller. Enfin, en tout cas, moi, ma favori pour l'instant, c'est vraiment The Toys That Made Us. Parce qu'en plus, si tu veux, contrairement à Toys Hunter ou Pawnstar, c'est vraiment un concentré. Il y a un thème fédérateur qui est. Tu sens que tout est construit autour de ça, quoi. C'est pas.
Ouais, c'est vraiment Star Wars. Voilà.
Puis ça va en profondeur et c'est vraiment intéressant.
Toy Hunter, c'est plus pour les gens, les jouets américains, de façon un peu plus générique, on va dire, générale, pardon, où on trouve beaucoup plus d'éléments, on parle de tout, on parle même des muscleurs et compagnie, donc c'est assez intéressant pour la culture du jouet, voilà.
Puis d'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder les autres émissions, parce que du coup, moi, je pensais regarder que celle sur Star Wars. Vraiment, celle sur Musclore, j'en ai vraiment eu ma larme à l'œil pour une raison affective, mais celle de Barbie et sur G.I. Joe sont hyper intéressantes aussi. Vraiment, très très content.
On fera un spécial G.I. Joe un jour. Je connais un collectionneur G.I. Joe qui est formidable.
Ouais, alors je sais pas si Danny va nous autoriser à parler de G.I. Joe.
on lui dit pas.
Ouais. Non, t'inquiète, Danny, ça parle de Star Wars.
Bon, on a fait tout le tour.
On a fait le tour.
On fait un bisou à Sébastien Galano. Bisous,
ouais.
Sébastien.
Ouais, et puis.
On pense à toi.
Ouais, on pense à toi, du coup. Et puis, du coup, on va remercier. Déjà, je vous remercie de m'avoir accepté dans cette émission Collector. J'ai pris bien du plaisir à parler de tout ça, c'était cool. Et
ouais,
puis.
T'es le bienvenu.
On se reverra sûrement à QC, hein. Manière.
Migène, QC, ouais.
Ouais. Ah, tu vas à Migène aussi.
Peut-être.
Moi, j'hésite. Hein. Donc, tout d'abord, eh bien, comment, Raphaël, pour conclure, comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
Sur Facebook, à Raphaël Gonneau, tout simplement, ou un email, c'est raphaël71@meetingbox.net. Voilà.
Très bien, donc moi c'est Tom and Rosie, uniquement sur Facebook pour l'instant. Surveillez bien, là récemment nos collègues ils ont enregistré une émission sur les dernières infos de Han Solo, donc elle va pas tarder de sortir, pour un peu elle sera peut-être même sortie avant la nôtre.
Oui.
Et la prochaine émission qu'on tournera, ce sera sur la bande-annonce de Han Solo. Alors moi je suis pas sûr de pouvoir y participer parce que j'emmène mes élèves à Paris en voyage, attention.
Waouh.
Ah, t'as eu ça un peu. Et ensuite, on va remercier déjà. Je te remercie, Raphaël. Et puis, on va remercier tous nos partenaires, hein, Sitclan, Mintinbox, Star Wars Solonet, Star Wars Universe, Planet Star Wars, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science Fiction. Donc, de la part de Raphaël et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.